Salut à tous et bienvenue encore une fois pour notre podcast hebdomadaire Super Physique. Je suis avec l'incroyable, le talentueux, le William Carnimola de la musculation, Julien Vénesson.
Salut Rudy, salut à tous.
Donc malheureusement nous n'avons pas pu faire en vidéo cette semaine le podcast, car nous avons eu de gros problèmes de son hier.
Oui, enfin nous, tu as eu des problèmes.
Oui, nous avons tourné le podcast en vidéo et c'était un massacre. Donc on a préféré le refaire en audio et vous réserver donc la semaine prochaine... En exclusivité, William Carnimola à l'animation. N'est-ce pas, Julien?
Tout à fait.
Donc, je voulais faire rapidement un petit tour d'actualité. Donc, déjà, je voulais remercier tous ceux qui me font des témoignages pour mes e-books, dont notamment le dernier qui est sorti il y a une semaine, donc mes secrets pour la masse. Vous êtes déjà une petite vingtaine à m'avoir envoyé vos témoignages. Donc, n'hésitez pas à continuer, ceux qui l'ont acheté, à me faire des témoignages. Donc, merci d'avance. Ensuite, je voulais parler, il y avait eu la Coupe de l'Union Européenne, donc qui est le championnat d'Europe de l'Ouest, de powerlifting, donc de force, où il y avait trois représentants de la team Superpower qui étaient présents. Donc il y avait Brice, Romain et Gilles. Donc Brice a fini deuxième, il a battu tous ses records, donc il a gagné une place par rapport à l'année dernière, et a gagné 15 kilos sur son total. Donc bonne performance, on peut dire. Romain a battu son record aussi, et a gagné. Et Gilles a gagné aussi en foirant à moitié sa compétition. Et donc, dans la team, maintenant, on a deux champions d'Europe de l'Ouest et un vice-champion d'Europe de l'Ouest.
Et pourquoi il a foiré à moitié sa compétition?
Parce qu'il m'écoute pas. Gilles, si tu m'écoutes, qu'est-ce que nous entends? Suis ce que je te dis. Parce que Gilles, c'est le genre de personne à me demander des planifs. Et en fait, on s'appelle chaque semaine pour faire le point. Et en fait, il a suivi à moitié. Et à la fin, quand il foire, il vient me dire, mais c'est de ta faute. Il dit pas que c'est de sa faute, il dit c'est ta faute. Et puis s'il réussit, il va dire, c'est grâce à moi.
Il est malin.
Ouais, il est malin. Bah, en plus, on sait très bien qu'il fait ça, avec tout le monde. Parce qu'à un moment, c'était Brice qui l'entraînait. Mais il va dire que c'est pas vrai. Et jamais il va lui dire merci, c'est grâce à toi, non. Il va dire, ah non, mais c'est pas toi, hein, c'est grâce à moi. Donc, voilà, Gilles a moins suivi la planif que les autres. Ce qui fait qu'il n'a pas battu ses records, alors que normalement, il aurait dû être vachement bien. Donc on espère qu'il va m'écouter jusqu'aux régions, où il devrait être monstrueux s'il suit bien tout. Donc, sinon, j'avais un petit sondage à vous faire passer. Il y a un élève que j'entraîne, donc il a un de ses potes, qui lance une application qui s'appelle VivaPix. Donc le principe, en fait, c'est une entreprise, donc par exemple Super Physique, paierait pour... que vous puissiez faire imprimer des photos prises avec votre téléphone, donc que ce soit un iPhone ou n'importe quel smartphone. Et donc, imaginons que vous prendriez une photo avec un t-shirt Super Physique, forcément, mais c'est Super Physique, et vous recevriez par la poste votre photo avec marqué Club Super Physique dessus. Voilà. Donc la question, c'est, est-ce que ça vous intéresse? Julien, pourquoi tu rigoles? Tu vois ta photo?
Non, moi, je vois pas trop l'intérêt de la chose.
Ah voilà, mais c'est pour ça que je pose la question. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à toucher un petit mot en bas du podcast, ou à m'écrire pour me le dire. Puis bah, si ça ne vous intéresse pas, bah, j'aurais bien compris que je vais garder des sous pour faire des vêtements. Donc voilà, Julien, tu n'avais pas d'actualité à nous raconter?
Si, j'avais une actualité. Je voulais passer un message à nos auditeurs. Je voulais leur dire que, comme vous le savez, Rudy, enfin non, vous le savez pas, mais à cause de ses problèmes de son, a décidé de commander un casque audio pour qu'on puisse bien s'entendre la prochaine fois lors des podcasts vidéo. Malheureusement pour ça, il a dû prendre un prêt à la banque, un endettement sur 10 ans. Donc je vous demande, achetez l'e-book de Rudy Koya.
Les trois e-books, le pack surtout. Hein.
Le pack d'e-book de Rudy Koya, prise de masse, sèche.
Et prise de muscle.
Voilà. Pour devenir énorme et en plus pour permettre à Rudy de payer ce prêt parce que ça va le poursuivre pendant quand même 10 années maintenant.
Donc, je comptais sur toi, Julien, en fait, pour sponsoriser tout ça, mais j'ai bien vu que tout ton argent partait dans Akuma.
Bah ouais, exactement.
Alors on attaque. Première question de diète. Julien, que penses-tu de la notion de facteur d'inflammation utilisé sur des sites tels que nutritiondata.self.com ou encore inflammationfactor.com? L'IF est censé prendre en compte un ensemble d'éléments, y compris, j'imagine, l'indice Prale, donc qui mesure l'acidité, et la balance oméga 3 oméga 6. Or, je constate avec surprise que la viande rouge, quelle qu'elle soit, a un facteur neutre, voire même légèrement anti-inflammatoire. alors que tous les fruits sont inflammatoires. Comment comprendre et interpréter ces chiffres?
Je suis allé voir le site là, Inflammation Factor, et en fait, apparemment, c'est un... Parce que j'avais déjà entendu parler de, cette espèce de mesure du facteur d'inflammation, mais je ne m'étais jamais trop penché sur la question. Apparemment, ils auraient développé leur propre méthode de calcul, et c'est également le thème d'un de leurs livres. Donc, disons qu'ils ne donnent pas non plus la méthode de calcul, donc c'est pas quelque chose qui est, on va dire, utilisé unanimement par la communauté scientifique et reconnu. Donc, c'est quelque chose qui a été fait un peu dans un coin. Et puis, apparemment... les myrtilles sont censées être inflammatoires, la viande rouge est censée être anti-inflammatoire, alors que dans la pratique, on sait que c'est plutôt le contraire.
C'est exactement l'inverse, quoi. Ça va exactement à l'encontre de tout ce qu'on a pu lire.
Et tout ce qu'on peut constater, surtout. Donc du coup, pour moi, ça vaut rien du tout. Donc je conseille de pas en tenir compte. Je pense qu'on a assez d'éléments avec tous nos articles, tous les bouquins que j'ai écrits, notamment sur la nutrition, pour... comprendre quels sont les éléments les aliments qui vont avoir un effet anti-inflammatoire, donc de par exemple de par leur teneur en oméga 3 et en oméga 6, ce genre de choses. Donc il n'y a pas besoin d'aller faire des calculs sortis de je ne sais où
qui... c'est vrai que souvent les gens ils aiment bien les calculs un peu savants qui sortent de l'ordinaire. Mais c'est vrai.
Je vais prochainement mettre au point mon propre facteur d'inflammation avec des cosinus, des sinus, des racines carrées, des intégrales.
Ça donne tout de suite beaucoup plus de crédibilité aux personnes qui connaissent pas.
Exactement. Et du coup, je le vendrai très cher.
Pour financer le casque audio.
Tout à fait.
Excellente idée.
Voilà.
Bon, donc à retenir, le facteur d'inflammation, c'est un peu du bidon. Alors, question d'entraînement. Dans un podcast, tu as dit, donc moi, qu'il était plutôt dangereux de tester son maximum et que cela n'avait aucun intérêt si on ne faisait pas de compétition. Tu conseillais même de rester sur du 5RM en fin de cycle. Or, on sait qu'on ne peut pas s'entraîner indéfiniment sur des séries de 5, sinon on risque la stagnation et que l'on doit planifier notre réussite. Ainsi, tu avais dit également qu'il fallait reprendre un nouveau cycle en série plus longue afin de récupérer nerveusement et de relancer notre progression. Le cycle de progression peut-il donc être envisagé de cette manière? Progression sur des séries de 12 pendant 10 semaines, jusqu'à stagnation. Progression sur série de 8 pendant 10 semaines, jusqu'à stagnation. Cycle de force classique en série de 5, comme le préconise Joseph Pognier ou Marc Casabianca. Donc, c'est déjà une très bonne question. J'aime bien ce genre de questions. Donc, je vais aller dans l'ordre. Donc... que l'on fasse de la compétition ou pas, je ne conseille pas de tester son maxi à l'entraînement. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. En général, on arrive à extrapoler ce que l'on va faire en maxi à la compétition à partir d'un 2 ou 3 RM. Donc en général, un 2 RM, c'est quand même à 95% de son maxi. Donc c'est assez prédictible. Et donc après, effectivement, on ne peut pas s'entraîner toute l'année sur le même fourchette de répétition. Donc là, je vois que la personne choisit entre 5 et 12 répétitions. Ce qui me paraît peut-être un peu long si les cycles sont faits pour la force, donc pour les mouvements de powerlifting qui sont squat, développé couché, soulevé de terre. Et donc et après la troisième critique que je dirais, c'est qu'on ne va pas progresser pendant 10 semaines sur le même nombre de répétitions. Donc je prends l'exemple, donc la personne dit je vais faire pendant 10 semaines des séries de 12 jusqu'à stagnation. Donc déjà, un, je vais pas aller jusqu'à stagnation parce que c'est pas le but. Si je prépare une compétition... Oh, on a entendu Akuma miauler. Ouais, il est en train de caresser son chat, putain. Oh là là, la fiotte.
Non, mais il répond à la question.
Il répond à la question. Donc voilà, si on prépare une compétition, donc c'est ce que je comprends avec la question, le but n'est pas d'aller jusqu'à stagnation, mais de bien planifier par rapport à la date de la compétition. L'objectif. Donc j'ai pu remarquer en général avec les athlètes que j'entraîne pour les compétitions que passer 5 à 6 semaines il était temps de changer de nombre de répétitions. Donc par exemple je prends le dernier exemple de la préparation pas Gilles parce qu'il explique à moitié. Par exemple Brice au squat, je me souviens qu'on a fait 6 semaines en série de 10 avant de passer en série de 8. Donc après en série de 8, on n'a pas tenu longtemps, on a dû tenir 5 semaines. Puis après, on est descendu plus rapidement. Donc en fait, quand on démarre un cycle comme ça, on peut faire des plus gros bonds. Donc imaginons, pour illustrer ça, je fais 10 à 140 au squat. Mon objectif est d'arriver, imaginons sur ce cycle de série de 10, à en faire une de 10 à 145. Et ben, je vais commencer par exemple à 120 et faire des bonds de 5. Donc ça veut dire qu'en 5 semaines, je vais être à 140. Et la sixième semaine, je peux faire une semaine de récup active. Et donc la septième semaine, battre mon record grâce au cycle que j'ai mis en place. Donc voilà. Donc pour revenir sur le truc, 10 semaines, je pense que c'est beaucoup trop long sur le même nombre de répétitions. Et après, en général, une bonne planification pour une compétition, c'est déjà si on fait déjà sur... ça fait quoi là, 16 semaines, là je compte par exemple sur les planifs que j'ai faites avant pour les régions. Il reste 16 semaines avant les championnats régionaux, ce qui est déjà pas mal long. Est-ce qu'il va se découper en 10, 8, 6 et après est-ce qu'il va se découper en bloc de 4 à 5 semaines. Donc voilà, donc on teste jamais, donc je récapitule, on ne teste jamais son maxi avant la compétition. On fait des cycles plus courts que 10 semaines et on évite la stagnation. Et à partir de là, on planifie suivant la date à rebours pour son objectif. Et après, normalement, tout roule tout seul, comme dans du beurre. Hein, Julien?
Oui, tout à fait.
Ouais, je sens que t'as bien écouté, toi.
C'est mon chat qui fait les bêtises.
Bon, Julien, question diète.
Oui?
Tu m'as pas écouté. Peut-on consommer du jambon blanc s'il est label rouge et à la coupe au boucher? Et des viandes à 15% de matière grasse si elle est bio ou label rouge?
Alors, à la coupe au boucher, faut savoir que ça ne veut pas dire grand-chose parce que le boucher, en règle générale, passe pas ses soirées à fabriquer son jambon dans sa cave. Donc, il les achète chez un grossiste et il les revend ensuite. Donc du coup, le fait que ce soit chez un boucher n'est pas une garantie de qualité sur...
Tu rigoles, mais hier j'ai posté une photo de mes courses, et il y a quelqu'un qui m'a dit justement, tu ferais mieux d'acheter ta viande chez le boucher. Alors j'ai coaché un boucher, qui m'a révélé un peu les secrets du du truc, et ben c'est pas mieux que ma viande bio du supermarché. C'est peut-être même moins bien.
Bah ouais, pas toujours, mais... En tout cas, il n'y a pas de lien entre le fait que ce soit un boucher et le fait que ce soit de la qualité. Il y a des très bons bouchers, mais il y a des moins bons bouchers.
Bah, ça dépend d'où vient la viande aussi, c'est toujours pareil.
Ouais, exactement. Donc du coup, donc voilà ce qu'on peut dire pour le jambon chez le boucher. Ensuite, du jambon bio, effectivement, c'est plus intéressant que du jambon pas bio, dans le sens où au niveau de la composition des graisses du jambon... Il va y avoir plus d'oméga-3, moins d'oméga-6, parce que on donne pas la même alimentation aux cochons en élevage d'agriculture biologique plutôt que dans l'élevage traditionnel. Ça a un impact sur la composition des graisses corporelles. C'est le point le plus notable. Et c'est probable aussi que en termes d'impact environnemental, les fermes bio soient un petit peu meilleures. Puis en ce qui concerne la viande, c'est le même principe, hein. Je ne conseille pas de prendre des viandes qui sont issues d'élevage industriel, donc qui ne sont pas au moins bio. Label rouge, je n'ai pas trop vu de viande rouge label rouge. Il y a de la volaille, oui, mais de la viande rouge, je n'ai pas trop vu ça. Toujours est-il que si on prend des viandes rouges, justement, qui sont donc les moins chères, hein, les élevages classiques, c'est souvent des viandes qui sont bourrées d'acide gras oméga 6, en particulier d'acide arachidonique, donc qui est un acide gras qui est directement inflammatoire. Et ça, on sait que c'est pas très bon pour la santé. C'est pas bon non plus pour la performance sportive. Nous, on a besoin, en tant que sportif, d'avoir un apport assez élevé en oméga 3, si possible. Ça va accélérer la progression, comme on l'a vu dans l'article sur les oméga 3 sur le site de Superphysique et puis dans mon livre également.
Nutrition de la force.
Voilà. Donc, quitte à... Si on a des problèmes financiers, mieux vaut manger moins de viande et l'acheter de bonne qualité plutôt que de manger beaucoup de viande de mauvaise qualité.
D'ailleurs, ça me fait penser aussi, hier, on a critiqué ma photo en disant que le bio coûtait plus cher. Et donc, je voulais justifier le fait que la viande bio que j'achète coûte 12€ le kilo. Et que les œufs bio, j'ai regardé, coûtent 2 centimes plus cher à l'unité.
Ouais, puis j'ai envie de dire quelque chose aussi. Bah, c'est normal que ce soit plus cher.
Ouais, mais c'est à peine plus cher, c'est pas beaucoup plus. Après, les fruits et légumes, c'est plus cher.
Ça, c'est oui, grave. Après
mais
ça.
Mais la viande, là, pareil, les œufs.
Bah, c'est aussi que t'achètes de la grande distribution. Ils ont des grosses marges, donc ils peuvent se permettre de jouer plus sur les prix. Mais il n'en reste pas moins que en termes de comment dire de tout ce qu'il y a comme critère pour l'agriculture biologique, en termes de qualité de nourriture des animaux, d'espace de plein air, etc. Tout ça, ça coûte forcément plus cher pour un éleveur. Donc c'est normal que ça se retrouve au niveau du prix du consommateur. Et pour ceux qui sont pas contents, bah j'ai envie de dire aujourd'hui, on est bien obligé d'admettre que la santé n'est pas accessible à tout le monde. Si on veut être honnête, si on n'a pas de moyens financiers, bah, on peut pas s'acheter une bonne alimentation. Si on a un accident, on peut pas se payer un bon chirurgien. Donc tout est comme ça. On a un système santé qui est solidaire, mais bon, il a ses limites. Et en particulier pour la prévention, il y a personne qui rembourse les œufs ou les légumes. Donc
quel monde injuste.
Bah oui, mais enfin juste.
Et Akuma, est-ce que c'est de la bonne viande?
Non, on goûte pas. Akuma n'est pas comestible.
Est-ce qu'il est plein d'oméga 3 ce chat?
Bah je pense, oui, il doit être pas mal plein d'oméga 3.
Et on devrait le bouffer. Le lieu qui est mieux pendant le podcast. Donc, passons aux questions suivantes. Question d'entraînement. La prise très large au développé couché, qui me permet de prendre plus lourd, est-elle forcément une tueuse d'épaule quand on cherche constamment à améliorer son record? Est-ce judicieux de faire beaucoup d'oiseaux, de face pull ou de rowing prise large pour éviter les problèmes si l'on travaille sans développé couché deux fois par semaine? Faut-il changer sa prise pour une intermédiaire ni trop large ni trop serrée, quitte à redescendre en poids pour s'épargner de futurs problèmes? Donc, excellente question encore une fois. J'aime bien cette question. Donc déjà, est-ce que la prise large est dangereuse? Tout va dépendre de votre morphologie. Donc hier, je montrais en vidéo, malheureusement, avec un son pourri, donc là, je vais pas pouvoir vous remontrer. Mais donc imaginons que j'ai des bras très très grands, très très longs, et j'ai pas de cage thoracique. Quand je vais descendre, mon coude va descendre excessivement bas, et dans ce cas-là, bah, la prise large, oui, va me massacrer les épaules à petit feu. Vous allez vite le sentir. À l'inverse, si j'ai une grosse cage thoracique et des bras très courts, style les champions de coucher que l'on voit à l'heure actuelle en France ou dans le monde entier, eh bien quand je descends, mon coude ne va pas descendre très bas, et donc je ne risque pratiquement rien pour les épaules, je ne risque même rien. Donc déjà, ça c'est le premier point. Ensuite, est-il judicieux de faire beaucoup d'exercices pour les antagonistes? Donc faire de l'oiseau, du rowing bar, donc j'imagine prise large, donc c'est-à-dire en pronation, avec les coudes ouverts. Donc de travailler par exemple les trapèzes moyens et inférieurs. Donc oui, c'est une bonne idée, c'est même indispensable lorsqu'on souhaite progresser et garder ses deux épaules intactes le plus longtemps possible. Toujours travailler ses antagonistes et développer aussi bien musculairement que niveau force, c'est hyper important. D'ailleurs, j'ai entraîné un champion de coucher dans une autre fédération l'année dernière, et donc il a progressé, parce qu'avant il faisait que du développé couché. Donc il va se reconnaître, c'est Will, salut Will. Et donc on a mis en place pas mal de muscles de travail d'antagonistes, et puis bah ça l'a fait progresser, justement. Donc hier Julien, dans le podcast, on a enregistré, justement, tu commentais ce que je disais.
Oui, bah je disais effectivement, c'était quelque chose qu'on observait chez les gens qui faisaient que du développé couché, parce que comme les muscles du dos permettent de gagner en stabilité, si on est plus stable, on peut pousser plus lourd, et donc faire que du développé couché, bah à terme, non seulement ça augmente le risque de blessure, mais en plus c'est contre-productif pour la performance.
Merci de cette précision, Julien. Donc j'imagine que tu travailles ton dos.
Oui, tout à fait.
Ça se voit. et donc pour finir, faut-il changer sa prise pour une intermédiaire ni trop large ni trop serrée, quitte à redescendre en poids? Donc encore une fois, ça va dépendre, un, de la morphologie qu'on vient de voir, deux, des points forts musculaires qu'on a. Donc par exemple, on a vu sur le forum, je crois que c'était Martin, à un moment, qui était plus fort avec une prise de 55 cm entre les deux mains, sachant qu'une prise large, en général, donc le maximum autorisé en compétition, c'est 81 cm. Et donc, bah, lui, il était plus fort avec une prise de 55 cm, donc, parce qu'il avait des triceps énormes et puis super forts, et donc il était moins fort en pec. Donc, en général, ce qu'on assiste dans les compétitions, comme il y a l'utilisation du maillot, c'est que là, tout le monde prend le plus large possible, donc 81 cm. Après, si on est hétéro, il y en a qui reprendraient peut-être un peu plus serré, en fonction des points faibles, des points forts. Par exemple, je pense pas que les filles prendraient hyper large, vu qu'elles ont pas de pec et que ça décolle pas d'en bas. Mais donc voilà, analyser sa morphologie, voir jusqu'où descend le coude. Évidemment, faire beaucoup d'exercices d'assistance pour les antagonistes, pour éviter de se blesser, et essayer de progresser au même rythme, voire même plus rapidement que le développé couché, pour se renforcer et prévenir les blessures. Donc là, on parle d'oiseaux, de rowing prise large, etc. Mais ça vaut aussi de renforcer la coiffe des rotateurs, donc avec des rotations externes, des L-fly, donc comme il y a sur le site. Et donc après, à analyser, suivant vos points forts, etc., la largeur de votre prise pour être le meilleur possible. Je me souviens, petite anecdote, quand je suis passé, parce qu'avant je prenais assez serré, je prenais 70 cm entre les deux mains, pendant un moment, donc quand j'avais 15-16 ans, c'est comme ça que j'avais passé la première fois mes 100 kg. Et donc le jour où je suis passé en prise large, bah, il m'a fallu un petit temps d'adaptation avant d'être plus fort. Donc prise large, pour moi, ça reste toujours serré. Hein. Et il m'a fallu genre 3 semaines avant de devenir plus fort. Sur la première séance où j'avais pris plus large, bah, j'étais moins fort. Donc mais je savais que ça allait remonter, car j'y croyais. Puis c'est remonté. Donc
La muscu, ça a jamais été ton point fort.
Bah ouais, moi mon point fort c'est les chats. surtout quand ils sont roux et qu'on peut les faire griller au barbecue.
C'est normal qu'ils soient roux, c'est mon fils.
Julien, dernière question. Est-il judicieux de faire une journée dans la semaine plus haute en glucides que les autres jours, le jour où l'on entraîne un point faible, afin d'avoir le max d'énergie possible?
Bah non. Pourquoi dans le sens où normalement si on a une bonne alimentation pour la prise de masse musculaire, bah on a chaque jour un petit peu de glucides qui sont répartis pour permettre de refaire des réserves de glycogène.
Et... Ouais, c'est que normalement on a assez de calories, on est déjà en surplus calories, donc normalement on est en forme tout le temps, à moins d'avoir fait d'avoir mal dormi, d'avoir fait la bringue la veille, normalement on est toujours en meilleure forme.
Donc du coup, bah, ça n'a pas grand sens de faire ça. D'autant plus que la problématique du point faible, c'est pas un manque d'énergie. La problématique du point faible, c'est un manque de recrutement nerveux, des choses qui sont plus liées à l'entraînement. Donc d'aller manger plein de glucides avant, ça changera pas grand chose.
Bah si, on peut avoir mal au bide.
Ouais.
Mais ça arrive, des fois tu fais un gros repas, on a un repas de famille, après tu veux t'entraîner, mais après tu le fais une fois, après tu comprends qu'il faut pas le faire.
Ah, mais toi, c'est parce que tu manges plein de gluten.
D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, Julien a écrit un livre sur le gluten, pour ceux qui ne savent pas. Donc, pour l'instant, une réussite. Et depuis ce livre, je ne mange presque plus de gluten, d'ailleurs.
Et donc, du coup, t'as plus mal au ventre.
Non, mais j'avais jamais mal au ventre, je mange que des trucs sains. Mais
quand t'allais en famille.
De quoi? Ah, quand il n'y a pas de famille, bah oui, parce que forcément, je ne choisis pas trop ce que je mange. Mais ça arrive pas souvent. Ouais. Ah, là, là. Bon, sur ce, donc c'est la deuxième fois qu'on faisait ce podcast pour vous. Donc j'espère qu'il vous plaira. On espère la semaine prochaine pouvoir le faire en vidéo. Parce que Julien s'était quand même dépouillé hier pour le podcast.
Et vous pouvez tout à fait envoyer des messages critiques, très critiques envers Rudy Koya pour lui signer son incompétence et son incapacité à être prêt pour les podcasts vidéo.
J'ai acheté un casque hier, car il est arrivé par la poste.
Alléluia.
Donc je rappelle encore une dernière fois, vous pouvez poser vos questions, donc c'est la rubrique, c'est sur le forum Superphysique, rubrique entraînement, et donc il y a un sujet qui s'appelle podcast, donc vous mettez toutes vos questions et on y répond donc avec plaisir, vous voyez, dans la bonne humeur. Il n'y a que à cet endroit-là qu'on pose les questions, ne nous écrivez pas ailleurs pour les questions, c'est vraiment à cet endroit-ci. Et puis bah sur ce, j'ai plus qu'à vous dire à la semaine prochaine.
Salut à tous.